à tous. Le Seigneur vous bénisse. Ah, ce matin, vous avez vu mon petit-fils Timothée monter sur l'estrade et observer toutes choses. Le micro, la batterie. Alors, je crois qu'il a un faible pour la batterie. Hein? Richie, il va falloir que tu l'apprennes à jouer de la batterie. Il faut s'y prendre tôt, hein. Les enfants, c'est plus que... Nous, on n'était pas des enfants la même chose, on était attardés. Quand on regarde maintenant les gamins, comme ils sont réveillés, c'est fou, hein? Oh là là! Que Dieu vous bénisse, vous qui nous rejoignez sur le net et aussi à la radio, que Dieu vous bénisse. Ce matin, on va étudier un peu des choses importantes et pratiques. On va lire Éphésiens 2, 1, 2, s'il vous plaît. C'est Paul qui parle, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Autrefois, on faisait partie de ces fils de la rébellion, maintenant on a changé de camp, mais nous marchions autrefois comme ça, selon le train de ce monde, c'est-à-dire à la façon de ce monde, selon un esprit. Quel esprit? L'esprit qui agit maintenant encore dans les fils de la rébellion. Hein, c'est le prince de la puissance de l'air. Ça sera un titre de film d'horreur, ça. Le prince de la puissance de l'air. Vous pouvez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, il y a plus que jamais une forte suggestion diabolique qui influence les terriens. L'esprit du prince de ce monde, on sait bien que c'est l'esprit de l'adversaire, Satan, le vieux serpent. L'autre jour, je parlais avec un pasteur et je lui disais que le serpent, le diable, était un serpent ou un dragon, mais surtout pas un ange déchu. Il était tout étonné. Et je lui ai montré les textes dans la Bible. Alors là, il était encore plus étonné. Et si vous voulez savoir ces choses, vous allez les lire dans mon commentaire sur le Enoch, chapitre 6, tout ça c'est sur Révélation Bible. L'esprit du prince de ce monde, c'est un esprit féroce, un esprit rusé, un esprit animal, un esprit bestial, et il influence le genre humain aujourd'hui de plus en plus. Alors bien sûr, selon la prophétie de Joël 2, 28, il nous est dit que Dieu a répandu de son esprit sur toute chair. C'est vrai, mais ça reste très charnel encore, c'est sur toute chair, c'est sur la chair. Et l'influence du Saint-Esprit rencontre, n'est-ce pas, une tendance contraire, une résistance, parce que le monde des ténèbres a profondément gravé une mauvaise mentalité, je dirais, dans le cœur des êtres humains. Et c'est pourquoi Dieu permet, parmi nous, diverses épreuves que nous rencontrons. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est afin qu'on exerce notre pouvoir pour renverser cette tendance dans nos propres vies, pour pouvoir arrêter d'être résistant à la volonté de Dieu, pour que nous entrions dans ce flot du Saint-Esprit qui est déversé. Quand Jésus reviendra, il n'y aura plus de résistance. Mais il faut bien avouer que même dans l'Église de Jésus-Christ, même dans le cœur des meilleurs des enfants de Dieu, le Saint-Esprit rencontre encore une résistance. Et c'est à cette résistance que Dieu s'attaque principalement dans sa maison, c'est-à-dire dans son Église. Vendredi passé, je vous disais que le jugement de Dieu commence par sa maison, c'est-à-dire par l'Église. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le dit. Donc le jugement commence par son Église. En ce moment, il travaille, donc le Seigneur travaille à briser, le Saint-Esprit travaille à briser toute résistance par deux moyens, le moyen des épreuves et le moyen des punitions. Hein, on n'aime pas trop, n'est-ce pas? Mais c'est quand même comme ça. Dans son épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 8, Paul, parce que moi je crois que c'est Paul qui a écrit la lettre aux Hébreux, il écrit « Si vous êtes exempt de châtiment, c'est-à-dire si vous n'avez pas de châtiment, auquel on part tous, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Et dans une version un peu plus osée du 21e siècle, il est écrit « Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des bâtards. » C'est clair. C'est clair. Alors, il y a des épreuves et il y a des châtiments. La folie des vierges folles, c'est justement de ne pas discerner ce qui est épreuve de ce qui est châtiment. Mélange tout. Il leur arrive un problème, ah ben c'est une épreuve, c'est jamais un châtiment. C'est formidable comment, dans le milieu chrétien, on est amnésique, n'est-ce pas, au sujet de nos fautes. On oublie, ah on n'oublie pas celles des autres, mais les siennes on oublie. Hein. Il n'y a pas que moi, je crois, vous êtes tous, on est tous très amnésiques, n'est-ce pas. Non, moi je crois que ce qu'il faut faire, c'est ce que nous faisons dans la communauté, nous mettons les choses en règle jour après jour, nous mettons en règle les choses. On confesse nos péchés une fois, puis après c'est suivant, on va pas remettre le plat et tout le temps et parler de ça. Donc, que ta colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, etc. Donc, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait. Et si quelqu'un ne se rend pas compte, est très amnésique, alors on lui rappelle un petit peu ses fautes, et puis après voilà, puis on continue la vie comme si chaque jour nouveau était vraiment un nouveau jour avec le Seigneur. Les faux prophètes, ils ont tellement annoncé, n'est-ce pas, rabâcher l'évangile d'abondance, l'évangile du succès, l'évangile de la guérison, bien qu'ils n'en aient pas beaucoup, l'évangile de la délivrance, n'est-ce pas, et de l'amour, l'amour dégoulinant de bons sentiments inondés, n'est-ce pas, par des émotions à deux balles. Eh bien, ils ont oublié, ils ne savent plus, quand un problème vient, ils ne savent plus discerner si c'est une épreuve ou s'ils seront châtiés par le Seigneur, parce qu'ils baignent dans des doctrines bizarres, qu'on a mis un petit peu trop haut. Bien sûr que la vie abondante et la vie matérielle abondante, c'est aussi pour les enfants de Dieu. Bien sûr, tout ça, mais on ne va pas non plus en faire, n'est-ce pas, c'est pas la tête de gondole, je veux dire. Il y a d'autres choses dans la vie chrétienne plus importantes que ça. Donc, on peut ainsi les voir, ces fameuses vierges folles, prier pour que Dieu éloigne d'eux les démons qui les attaquent, alors que ce n'est pas les démons qui les attaquent, c'est Dieu qui les châtie, très souvent. Ce sont des vrais enfants de Dieu, mais ils sont sans sagesse. Déjà du temps de Moïse, Dieu avait dit, oui, vous faites partie de son peuple, mais vous êtes sans intelligence. Sans intelligence spirituelle, par faute de connaissance de la personne de Dieu, de ses principes, les principes du Père, du Seigneur, du Maître. Rappelez-vous ce que notre frère le Picard a prêché l'autre jour au sujet de sa seigneurie. Il rejette, n'est-ce pas, toutes ces choses... au sujet du renoncement, au sujet de la souffrance, au bénéfice d'un évangile un peu, je sais pas, bonbon rose et compagnie. Et ils végètent dans une fausse réalité. Dans une fausse réalité. C'est pourquoi Jésus les appelle vierges folles. Ce sont des vrais enfants de Dieu qui se gardent purs pour Jésus, mais ils sont un peu dingos. Vous vous rappelez Madame Foldingue dans le col à Rochaud? Ben voilà, c'est ça, Madame Foldingue. Ah, bonjour docteur! Oui, alléluia! Gloire à Dieu, le Saint-Esprit, lui, il est quand même capable de former l'épouse, la Vierge sage, comme il veut. Et il le fait. Ce n'est pas par soi-même, ce n'est pas parce qu'un bon pasteur voit vous prêcher, c'est pas en écoutant simplement les messages que vous entendez à l'Église que vous êtes formé, c'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit que le Saint-Esprit nous baptise, nous immerge dans le corps de Christ, il nous plonge dedans. Il nous immerge dans le corps de Christ, dans le corps qui appartient à Christ, c'est-à-dire dans l'épouse de Christ. Alléluia ! Alors, il y a donc ici-bas une grande majorité de fils de la rébellion et d'une. Ensuite, il y a des vierges folles et de deux. Et il y a des vierges sages, et le 3, toujours le chiffre 3. Mais parmi les fils de la rébellion, il y en a encore beaucoup qui sont prédestinés au salut, et il nous revient, c'est à nous que revient le devoir d'aller révéler qui est Jésus-Christ, et ce qu'il a fait sur la croix, c'est le ministère le plus important du monde. Celui d'aller évangéliser. Et c'est ce que nous nous appliquons à faire. Donc, au mois de juillet, je pars, dans des contrées un peu risquées, là-bas, en Afrique. Mais il faut aller prêcher l'Évangile là où il y a la souffrance. Amen. Bon, il y en a aussi en France. On prêche aussi. Mais il faut aller des fois sur le terrain ailleurs. Et puis aussi, ça nous fait prendre conscience de beaucoup de choses. Parce que nous savons que les fils de la rébellion qui s'endurcissent seront détruits dans la seconde mort, dans un anéantissement total. Apocalypse 28, 5 à 8, c'est écrit. On sait que c'est vrai, alors qu'est-ce qu'on fait? Nous savons ces choses, mais qu'en faisons-nous de ce savoir? Je vais vous donner quelques chiffres que je n'ai pas inventés. C'est des chiffres connus. Pour vous aider à prendre conscience de la réalité, je l'ai déjà envoyé à quelques-uns d'entre vous sur Internet. Et je vais vous les expliquer, vous allez pouvoir les réécouter, c'est très impressionnant. On va comparer notre planète, la Terre, à un village. Et on va dire que notre planète, c'est un village de 100 personnes. On va réduire donc toute la population mondiale à 100 personnes, mais on va garder les proportions de pourcentage. Vous me suivez? Alors, dans ce village de 100 habitants, tenez-vous bien, il y en a 57 qui sont asiatiques. Vous imaginez? 57 qui sont asiatiques. Il y en a 21 qui sont européens. 14 seulement sont américains. Et 8 sont africains. Dans ce village, qui a 100 habitants, il y a 52 femmes et 48 hommes. Dans ces 52 femmes et 48 hommes, il y en a 89 qui sont hétéros et 11 qui sont homosexuels. 70 sont des gens de couleur, brun clair, jaune, noir, noir foncé. Et il y en a que 30 qui sont blancs. Sur ces 100 personnes, il y en a 6 qui sont de nationalité. Je dis bien nationalité, hein, américaine. Mais il y a 80, parmi ces 100, 80 sans-abri. Il y en a 70 qui sont analphabètes. Sur ces 100 personnes, 50 dépendent de quelqu'un. Ce n'est pas seulement des enfants, ce n'est pas seulement des vieilles personnes, c'est aussi des malades, des toutes sortes de souffrants. Sur ces 100 personnes, il y en a un qui va mourir aujourd'hui. Il y en a deux qui vont naître. Et il y en a un sur ces 100 personnes qui possède un ordinateur. Vous vous situez? Sur ces 100 personnes, il y en a un qui est diplômé. Vous imaginez? Si on regarde notre monde comme ça, on se dit qu'on a vraiment du travail, n'est-ce pas? Il y a du travail. Si on regarde notre monde comme ça, on se dit qu'on ferait mieux d'être un peu plus compréhensif, d'écouter un petit peu plus les autres, d'être un peu plus tolérant, et aussi qu'on devrait mettre l'accent principalement sur l'évangélisation, deuxièmement sur les études générales, les écoles, et sur l'éducation. Parce que ça ne revient pas normalement aux écoles, ça revient aux parents d'éduquer leurs enfants. Mais vous voulez en savoir plus? Accrochez-vous à vos sièges. Écoutez bien ça. Si vous n'avez jamais souffert de guerre, de la solitude ou de la faim, vous êtes plus heureux que 500 millions de personnes qui vivent en ce moment sur la Terre. Si aujourd'hui vous avez pu aller dans un endroit officiel pour louer Jésus, dans un lieu de culte, sans que ça soit interdit, sans avoir peur d'être arrêté, sans avoir peur d'être torturé et d'être même tué, vous êtes plus heureux que 3 milliards de personnes qui vivent actuellement sur cette planète. Écoutez bien, si il y a de la nourriture dans votre frigo, si vous êtes vêtu pour avoir chaud, si, ou simplement pour vous protéger de la chaleur ou du froid aussi, si vous avez un toit, alors vous êtes plus riche que 70% de la population mondiale. Si vous avez un compte en banque, si vous avez un peu d'argent dans votre poche ou dans une boîte, c'est que vous faites partie des 8% des personnes les plus riches du monde. Si vous savez lire, vous ne faites pas partie des 2 milliards de personnes illettrées. Vendredi soir, je vous disais que la plupart des chrétiens ont oublié ce que Jésus veut principalement. C'est que nous nous identifions à ses souffrances. Bien, mes frères et sœurs, Jésus souffre de voir cette terre. Et l'apôtre Paul dit, je rajoute à mon corps les souffrances qui manquent à Christ. Les souffrances pour... Parce qu'il a souffert une fois pour toutes pour nos péchés, il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, il a des nouvelles souffrances. Et de voir dans quel état le diable a mis cette terre et dans quel état nous avons aussi, enfin nous, les êtres humains, mis cette terre. Et comment nous, en particulier les chrétiens, qui sommes mandatés pour faire, pour agir en son nom, eh bien, nous nous contentons d'aller simplement au culte en disant Alléluia, et voilà. Quand il est venu vivre ici-bas, dans un corps semblable au nôtre, il nous a pourtant montré ce que nous avons à faire ici-bas et comment le faire. Il nous a montré. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. On a le mode d'emploi, on sait comment. Mais mes frères et sœurs, peu, très peu de ces enfants travaillent fidèlement à cette tâche au sein de l'Église. Peu agissent avec leur talent comme Jésus le veut vraiment au sein de l'Église. Peu. Vous savez, lorsqu'on est centré sur Jésus et sur le service à nos semblables, eh bien, on a le modèle qui est juste. Le modèle qui est juste. Nous n'avons pas besoin de doctrine pour nous dire ce qui est juste ou ce qui est faux. Quand nous sommes au service de Jésus qui vit dans l'autre, dans notre frère humain, on sait très bien ce qu'il y a à faire. On sait très bien ce qu'il y a à faire. Vous savez, la Bible nous enseigne que servir Jésus ou servir les gens, c'est la même chose. La même chose. C'est ça la doctrine biblique, la grande doctrine biblique. Et mes frères et sœurs, la raison la plus élevée, la raison la meilleure pour servir, c'est l'amour de Dieu et c'est l'amour en pratique envers nos contemporains. L'amour pratique, je dis bien, pas cet amour dégoulinant de bons sentiments et inondé, n'est-ce pas, d'émotions. Oh, je t'aime dans l'amour du Seigneur, alléluia. T'appelles comment déjà? Parce que le service motivé par l'amour, il n'est pas soucieux ou très peu soucieux, tout soucieux de soi-même. Celui qui sert par amour, il est indifférent à ses avantages personnels. Il sert un peu comme le bœuf qui est attaché et puis qui tourne en rond parce que pour moudre le grain. Hein, c'était comme ça autrefois. Alors évidemment, on lui ferme pas la gueule avec un. Non, on le laisse un peu bouffer le grain qu'il est en train de moudre dans son service. Mais il est là en train de tourner en rond, il a l'impression de tourner. Il tourne en rond, vraiment. On dirait que ça n'en finira jamais. Il y a tellement de choses à faire, d'activités. Mais celui qui le fait par amour, eh bien, il s'en fiche de tourner en rond, il s'en fiche de penser, de toute façon, ça n'apportera qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il le fait par amour. Ce matin, on a vu mon petit-fils Timothy sur l'estrade, il a pris le micro, là là, ça va être un prédicateur aussitôt qu'il se mettra à parler. Hein. Mais en ce moment, il est uniquement focalisé que sur lui-même. Il a un an. Il est focalisé sur ses propres besoins. Il a un an. C'est pas mal. Il a un an. C'est juste l'enfance, c'est normal. C'est dans la nature. Mais à mesure, frères et sœurs, à mesure que nous grandissons, nous développons naturellement une certaine maturité. Si nous devenons des adultes spirituellement, parce que je crois qu'il y a son pendant dans le spirituel aussi, on commence par naître de nouveau, puis ensuite on grandit, on devient mûr. Et si nous devenons des adultes spirituellement, alors nous devrions normalement prendre de plus en plus conscience des autres, des souffrances de Jésus, des souffrances des autres, et finalement nous mettre à leur service. Jésus, c'est à l'âge de 12 ans qu'il a dit, mais ne comprenez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père à l'âge de 12 ans. On va faire la bar mitzvah des jeunes de 12 à 13 ans la semaine prochaine ici dans la chapelle. Ils vont rentrer au service. On peut appeler ça aussi le service de la prêtrise, c'est-à-dire que maintenant ils sont serviteurs de Dieu. À partir du moment où ils font cet acte. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous expliquerai dimanche prochain plus en détail qu'est-ce que c'est qu'une bar mitzvah. Servir. En tout cas, c'est ainsi que Jésus parle, lui, de la maturité. La maturité du chrétien normal. Qu'est-ce que c'est le contraire d'un chrétien normal ? C'est un chrétien crétin. Il y en a qui rigolent, ils connaissent. Hein? Mon petit-fils, là, il connaît bien les lapins crétins. Ben, il n'y a pas que les lapins crétins, il y a aussi les chrétiens crétins. Jésus employé un autre mot, il dit les vierges folles. Ça revient au même. Hein? Ça revient au même. La prochaine fois que vous voyez un lapin crétin, vous pensez qu'il y a aussi des chrétiens crétins. Pardonne-moi, Seigneur, mais enfin, il faut bien le dire un peu pour que ça reste gravé dans les têtes. Il ne faut pas être de ceux-là, mes frères et sœurs. Nous avons un chemin, Jésus est le chemin, et c'est cela le chemin que nous devons prendre, le chemin de la sagesse, de la conscience, pour devenir ce que notre Père veut que nous devenions, prendre conscience. Beaucoup de gens attendent le réveil. Premièrement, le réveil, ce n'est pas ce qu'ils attendent, le réveil, c'est le réveil de l'épouse. L'épouse de Christ doit se réveiller. C'est-à-dire, moi, quand je me réveille le matin, je prends conscience que, ah oui, 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 voilà, on est quoi? On est lundi? Non, on est dimanche. Voilà. Hein, ça ne vous fait pas ça? Vous n'avez pas un moment? On prend conscience. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas conscience, ils dorment. Nous, Dieu veut que nous devenions une certaine chose. Des gens au service les uns des autres, des gens sérieux sur lesquels il peut compter, sur lesquels le Seigneur peut compter. Il veut que nous devenions cela. Il veut que nous devenions des gens sérieux sur lesquels les gens peuvent compter. Il veut que nous devenions sérieux pour que les gens de la communauté, pour que les gens de l'Église puissent compter. Ah, c'est bizarre, hein, le mot compter. Tout de suite, ça fait penser à de l'argent, ça. Nous avons une responsabilité, mes frères et sœurs. Si nous ne servons pas les autres, nous empêchons notre propre progression spirituelle normale. C'est vrai. Le service du chrétien, ça passe par le corps de Christ, par l'Église, parce que nous sommes par le Saint-Esprit immergés dans le corps pour former un seul corps. Alors, il y en a certains, ils ont des talents de main, d'autres ils ont des talents d'œil, d'autres ils ont des talents de langue, d'autres ils ont des talents de porte-monnaie, d'autres ils ont des talents de chanson, d'autres ils ont des talents de ceci, de cela. On n'a pas juste un talent, très souvent on en a plusieurs. On a tous un... Alors là, ça c'est vrai, en tout cas dans nos pays, on a tous un talent de porte-monnaie. Plus ou moins. Si vous ne savez pas chanter, vous pouvez au moins mettre la main à la poche. Mais c'est vrai, mes frères, mais il faut le dire. Ça paraît un peu impudique de parler d'argent comme ça, mais c'est vrai. Le service du chrétien passe par le corps de Christ. Et c'est un ensemble, c'est quelque chose. C'est pas, le corps de Christ n'est pas une espèce de folle dingue. Les mains agissent de leur côté sans savoir ce que les pieds font. Alors les pieds vont à gauche, les mains peuvent plus terminer leur travail parce que c'est fait n'importe comment, avec des bons sentiments, avec des bonnes émotions, mais pas avec sagesse. Non, il faut que ce soit la tête qui dirige la tête du corps de Christ. C'est Christ et nous devons être soumis à Jésus-Christ pour savoir ce que nous avons à faire dans le corps de Christ. Alors ça passe par l'Église, ça s'étend premièrement à la famille. Si vous ne prenez pas soin de votre famille, en premier, vous êtes indigne du royaume de Dieu. Donc la famille d'abord, prendre soin de votre famille d'abord. Et ensuite, vous avez toutes sortes de responsabilités, suivant ce qui vous concerne, c'est-à-dire suivant les talents que vous avez envers les autres, c'est-à-dire premièrement dans l'Église, ensuite dans la famille plus ou moins proche ou lointaine, puis ensuite dans le monde, jusqu'aux extrémités du monde, nous dit la Bible. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille, et c'est comme ça que nous devons travailler, mais unis. C'est ça, être unis. C'est pas... Là, j'ai vu ce matin dans Top Chrétien, les catholiques et les évangélistes sont unis à Pontoise, ils sont 4000 à louer le Seigneur. Mais c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire de pratique? C'est bien, c'est déjà une approche. Au moins, ils se foutent pas mutuellement sur le bûcher, c'est déjà ça. C'est déjà ça de gagner, hein. Mes frères et sœurs, je dis ce matin avec l'Esprit de Dieu qu'il est plus important pour vous et pour le monde de vous focaliser sur les autres plutôt que sur vos faiblesses personnelles. Parce que ça, c'est un grand problème paralysant. Le diable vous distrait en vous accusant afin que vous pensiez à vous plutôt que de penser aux réels problèmes, aux réelles souffrances des gens vrais de ce monde. Et vous pensez à vos petites faiblesses, à vos machins, à vos péchés, à vos trucs. Ah oui, vous êtes là, mais moi je peux pas, je me sens pas prêt à entrer dans l'œuvre de Dieu parce que je fais ci, puis j'ai ça, puis je suis pas bien. C'est le diable, il joue avec vous là. Je dis avec l'Esprit de Dieu qu'il est plus important pour vous de vous focaliser sur les autres plutôt que sur vos propres faiblesses, sur le service des autres. Vous ne devez jamais oublier que vous servez Jésus, la vérité, chaque fois que vous faites du bien à quelqu'un. Chaque fois. Et principalement, chaque fois que vous faites quelque chose de bien à votre famille, et principalement aussi à la famille des enfants de Dieu. On va lire Matthieu 25, 31, faire une longue lecture, mais c'est tellement beau, je veux absolument qu'on lise ça, Matthieu 25, 31. Je lis. Lorsque le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire Jésus, hein, pas Branham, c'est Jésus, hein, ce qui est parfait qui doit venir, c'est Jésus. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, c'est-à-dire Dieu dira à ses brebis, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés vers toi ?» Le roi leur répondra, donc Jésus répondra, « Je vous l'ai dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Les frères de Jésus, c'est qui? Premièrement, c'est les frères humains, ensuite c'est les frères juifs, puis après c'est les frères chrétiens et les frères humains, il y en a des tonnes. Hein. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, et il y a une hiérarchie. Hein, c'est comme, par exemple, dans notre famille, il y a une hiérarchie. C'est comme dans la communauté, il y a une hiérarchie. Je suis désolé, j'aime plus mes petits-enfants, ma fille, ma femme, que vous. Pourtant, je vous adore. C'est vrai, attendez, c'est vrai. Eh bien, Dieu est la même, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui vous a été préparé. » Non, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. « Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Et elles répondront aussi, « Seigneur, mais quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, mais nous ne t'avons pas assisté ?»« Oh, on t'a pas vu ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » On est sauvé par quoi alors? Par nos œuvres ou par notre foi? Les justes, ils sont prédestinés, on a vu dès avant la fondation du monde, mais ensuite ils ont des œuvres à faire. Alors on en fait. On pourrait faire beaucoup plus et beaucoup plus efficacement. Vous croyez pas? La véracité de l'Évangile, la véracité des commandements du Seigneur, la véracité de ses promesses. Voilà. Qui vous servez en étant bon, en étant des gens qui manifestent un amour pratique. Vous servez l'Évangile, vous servez les commandements et vous servez les promesses de Dieu. En agissant avec bonté et en semant la parole de vie, c'est-à-dire la vérité dans les cœurs, vous servez Jésus. En faisant du bien à un pauvre, etc., vous servez Jésus. On est appelé non pas à être des spectateurs, en regardant toutes ces horreurs à la télévision, en disant « Oh là là, ça va mal dans ce monde, c'est bientôt le retour de Jésus, alléluia, ça va mal, les signes sont là, alléluia, passe-moi le sel. » Non, on est appelé à être des acteurs dans le monde. Le premier livre, après les évangiles, c'est les actes des apôtres et nous devons continuer les actes. Apôtre, ça veut dire envoyé. On doit continuer les actes des envoyés de Dieu. C'est nous les envoyés de Dieu aujourd'hui. C'est pas. Qui c'est les envoyés de Dieu si ce n'est pas ses enfants? Frères et sœurs, notre vie, c'est un peu comme un jardin. Et on a tous à assumer les conséquences des plus petits choix que nous faisons chaque jour. Il n'y a pas d'action indépendante. Quand vous faites quelque chose, ça crée une conséquence. Il y a toujours une conséquence. Vous savez, quand nous ressusciterons, mes frères et sœurs, tout sera connecté avec nos actes. Pour nous, qui serons enlevés, ça sera connecté avec nos actes en vue des récompenses. Ce n'est pas une question de salut. Mais pour les autres, la Bible dit qu'ils seront jugés selon leurs actes. Puis ensuite, on regardera si leur nom est dans le livre de vie. S'il n'y est pas, mais c'est toujours connecté aux actes. Alors, face à un si grand, face à ces si nombreux besoins, nous devons être spirituels. Et spirituels, attention, j'explique. Nous ne pouvons pas nous engager comme des vierges folles dingues sur un coup d'émotion et ensuite nous retirer au bout de quelques temps à cause de ceci ou à cause de cela. Il y a toujours des bonnes raisons. Nous devons être spirituels, c'est-à-dire stables dans l'esprit, c'est-à-dire à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de la parole écrite, à l'écoute du Saint-Esprit, de ce qu'il dit, de ce qu'il a écrit. Sinon, nous allons participer à la confusion qui règne déjà dans ce monde. Parce que si nous ne sommes pas aux ordres du Saint-Esprit, aux ordres des Écritures, selon l'ordre des Écritures, nous sommes dans la confusion, nous sommes dans le chenil, comme on dit en Suisse. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. On ne peut pas s'attendre à quelque chose, parce que des fois ça arrive, des fois ça n'arrive pas. On ne peut pas compter sur les uns sur les autres parce qu'une fois, ils sont bien disposés, puis des fois, non, ils ne sont pas bien disposés. Ils ne sont pas réglés par le Saint-Esprit, ils sont réglés d'après leurs sentiments, d'après leurs émotions, d'après les coups de tête, les coups de cœur. C'est pas réglé, c'est pas en ordre, c'est pas discipliné. On ne peut pas dire, tiens, de telle et telle heure à telle et telle heure, on peut compter sur ce frère parce qu'on sait qu'il est là, puis il est discipliné. Non, on ne sait pas, parce que peut-être qu'il a ses ragnagna ou je ne sais pas, un machin, quelque chose. Je parle des frères, hein. En général, les sœurs sont beaucoup plus au service que les frères. C'est vrai, hein? C'est vrai. Toujours, le médecin me disait, vous vieillissez bien. Je dis, oui, malgré ma ménopause. Il dit, c'est pas ménopause chez les hommes, c'est andropause. Je dis, oui, mais moi, j'aime bien rigoler. Il faut aussi rigoler. Si nous ne participons pas à ce que le Saint-Esprit a ordonné dans les Écritures et qu'il inspire à ses enfants, eh bien, nous allons participer à la confusion qui règne dans ce monde. Nous sommes dans le monde, nous a dit Jésus. Et dans ce monde, ce qui vient à nous en premier, ben, c'est la confusion. Ce qui vient à nous en premier, c'est l'affliction. Mais gloire à Dieu, il y a une charnière. Il y a une charnière. Il y a une charnière du bonheur. Une charnière du salut. C'est notre habilité à mettre notre confiance en Jésus-Christ et dans ses serviteurs. Pas en Jésus-Christ seulement, mais aussi dans ses serviteurs. Pas, les serviteurs, ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement ceux qui parlent sur l'estrade ou qui parlent. C'est mettre sa confiance dans les serviteurs, dans tous ceux qui servent. Si vous travaillez avec moi, si je travaille avec vous, vous pouvez me faire confiance, je peux vous faire confiance, on peut faire quelque chose, mais ensemble. Amen. Nous avons plus que jamais besoin de cela dans l'histoire de notre planète. Nous en avons besoin. Nous avons le devoir d'embrasser toutes les facettes de l'Évangile, pas seulement le côté doctrinal. Bien sûr que c'est nécessaire de savoir à quoi nous croyons, comment nous croyons, quelles sont les limites. Nous n'avons pas seulement à regarder les facettes prophétiques de l'Évangile, c'est très important. Mais nous avons à embrasser tous les enseignements de Jésus-Christ et des apôtres. Ce n'est pas seulement, c'est pas seulement de la doctrine. Hein. On doit l'embrasser de tout notre cœur et de toutes nos forces. Alors, pour expérimenter cet amour, ben le meilleur moyen, c'est de le donner. Donner l'amour qui nous a été donné aux autres. Il nous a aimé le premier, Jésus nous a aimé le premier. Maintenant, on va aimer notre prochain. On va montrer notre amour, et pas de façon indépendante, mais organisée dans le corps de Christ, avec l'Église. Dieu est un Dieu d'ordre, nous dit la Bible. Et sur la terre, il y a un grand désordre. Parce que la terre, ce qui gouverne la terre, c'est l'esprit de ce monde, le prince de l'air, qu'on a lu ça tout à l'heure. Et dans l'Église aussi, il y a un grand désordre. Alors dans l'Église, l'Église, c'est la reine du désordre. Et nous sommes invités ce matin à implorer Jésus afin que nous puissions travailler ensemble à servir ses desseins. Le réveil de l'épouse, c'est aussi cela, c'est une prise de conscience, comme je vous disais tout à l'heure. La volonté de Dieu, elle est contenue dans les écrits sacrés, elle est entendue dans les prédications inspirées. Nous avons à la connaître, la volonté de Dieu. Seulement ceux qui font la volonté de Dieu seront sauvés, on doit la connaître, donc la connaître. Alors, la Bible nous dit, dans Jacques 1, 2, « Regardez donc comme un sujet de joie les épreuves et aussi les châtiments du Seigneur. » Il faut regarder ça avec joie en disant, « Bon, voilà, le Seigneur s'occupe de moi, je ne suis pas un bâtard. » Les épreuves, en général, c'est les difficultés que notre chair éprouve, que notre mentalité rencontre. Et mes frères et sœurs, le disciple de Jésus, il accepte. Il l'accepte. Il ne l'esquive pas, même pas dans la prière. Il accepte le châtiment, il accepte aussi l'épreuve, il fait face. C'est le moyen que Dieu donne pour que nous puissions évoluer. Seigneur, délivre-moi. Non, du diable, oui, mais pas des épreuves. Seigneur, délivre-moi. Du diable, oui, mais pas des châtiments. Ce matin, l'Esprit vous exhorte à détourner vos regards de vous-même, c'est-à-dire de vos soucis, de vos manquements, de vos péchés, de vos limitations, de vos réticences aussi, parce que vous s'occupez des autres, oui, les autres, ils m'inquiètent, etc. Pour vous tourner vers la souffrance de Jésus. Il souffre dans ce monde, en ce moment, de voir tout ce qui se passe, comment le diable traite d'une façon ignoble tout ce pauvre monde. Alors Dieu a un peuple sur la terre. Et mes frères et sœurs, Dieu attend autre chose de son peuple que des mains levées ou des mains jointes, des genoux fléchissants. Il attend autre chose, bien sûr, ça c'est bien, mais il attend autre chose. Il attend autre chose que des chansons. Il attend autre chose que des cantiques, il attend autre chose que des prières mendiantes. Dieu, il attend autre chose, il attend des actes. Il attend des actes de ses nouveaux envoyés, des nouveaux actes des nouveaux apôtres. Voilà ce que Dieu attend. Il nous a envoyés. Il attend que nous mettions la main au porte-monnaie parce que tout ça, ça a un prix. Coluche avait raison quand il disait « Si tu n'as pas 100 balles, tu ne peux pas aider un pauvre. » Tu peux pas donner, du moins, tu ne peux pas donner 100 balles à un pauvre si tu n'as pas 100 balles toi-même. Mais on vient de voir qu'on fait partie de ces gens-là. On est des nantis. Ils me diront, je ne suis pas bien riche. Mais non, on sait bien. On sait bien, on ne compte pas sur les riches. On compte sur la générosité de la multitude de gens moyens qu'il y a dans l'Église pour pouvoir faire quelque chose d'efficace. Il attend qu'on aille vers les souffrants. Il attend. Quand vous y allez, vous allez vers Jésus. Quand vous rencontrez un souffrant, vous rencontrez Jésus. La présence d'un malade, c'est ça la présence de Jésus. Oh, ils veulent sentir la présence de Dieu. Ben, allez dans les hôpitaux. Allez rencontrer les malades, c'est ça la présence. Là, il y a la présence de Jésus. Tout ce que vous faites pour un malade, c'est à Jésus que vous le faites. Allez rencontrer les persécutés, c'est cela. La présence de Dieu. Il est là, Jésus. La présence d'un pauvre, c'est ça la présence de Dieu. Et on ne se débarrasse pas de Dieu en lui donnant 10 balles. On s'assure qu'il va pouvoir se prendre en main et travailler correctement. On lui donne la possibilité de le faire. La présence d'une personne rejetée, c'est ça la présence de Jésus. Je suis en train de lire un livre abominable, écrit par un homme qui s'appelle... j'ai oublié son nom. C'est celui qui faisait les photos de Sylvie Vartan, Jody Hallyday, Claude François. Comment ? Perrier. Jean-Marie Perrier, le fils d'Henri Salvador. Jean-Marie Perrier, qui a été élevé par François Perrier, l'acteur. Il a écrit un livre au sujet des garçons et des filles qui sont mineurs et rejetés par leurs parents parce qu'ils sont homosexuels. Il y en a plein en France, plein. Un tiers, paraît-il, qu'à New York, parce qu'à New York, ils sont plus organisés qu'en France, pour les sans-abri, ils disent qu'à New York, un tiers des SDF, donc des gens dans la rue, sont des garçons et des filles mineurs rejetés par leurs parents pour cause d'homosexualité. Vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte? Voilà où on en est. C'est abominable. Eh bien, la présence d'une telle personne, c'est ça la présence de Jésus. Quand vous aidez une telle personne, quand vous aidez une personne rejetée, peu importe pourquoi elle est rejetée, quand vous l'aidez, c'est Jésus que vous bénissez. C'est à Jésus que vous le faites. Quand on va en prison, quand vous écrivez à un prisonnier, quand vous allez voir un prisonnier, c'est Jésus que vous allez voir. Ah, mais quand même, il est en prison, c'est pas pour rien. Oui, mais voilà. Vous voulez sentir la présence de Dieu, allez là où il se trouve, dans le monde où croupissent des millions de personnes souffrantes. Alors, unissons-nous pour des actions ciblées et efficaces. Là, il y a le frère Nono qui m'a écrit ce matin, il est en train d'organiser une grande mission à Kinshasa. Je vais certainement aller à Kinshasa. Je vais d'abord y aller premièrement tout seul, et puis après, quelques-uns vont venir avec moi. On va faire quelque chose de la part du Seigneur, pour le Seigneur là-bas. Amen. En agissant pour les pauvres, pour les perdus, pour les rejetés, pour les méprisés. Tout ça, ça va coûter aussi de l'argent encore. Bon, voilà. Jésus parle de gens étrangers. Il parle de gens sans vêtements. Il parle de gens malades. Il parle de gens en prison. Il dit, toutes les fois que vous avez fait quelque chose de bon à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Un jour, j'ai payé un matelas à Jésus. Je vous raconte juste cette histoire parce que ça me revient d'un coup à l'esprit. C'est un papa qui m'avait emmené, je faisais une réunion, je ne sais plus où, c'est au Burkina, je crois. Il y avait Nicolas Savadogo qui était là et on prêchait. Puis il y a un papa qui m'a emmené sa gamine, enfin une belle jeune fille, qui aurait été une belle jeune fille, elle doit avoir 17-18 ans. Sur le porte-bagages de son vélo moteur, il l'a emmenée, elle avait le sida, elle devait peser quelque chose comme 30 kilos. Mais un squelette. Pour que je prie pour elle, bien sûr, elle sentait, c'était quelque chose d'horrible. Eh bien, c'était la présence de Dieu. Je sentis la présence de Dieu en sentant cette odeur-là. J'ai prié pour elle, évidemment. Puis après, je me suis inquiété d'elle. J'ai dit, mais... parce que je sais comment c'est là-bas en Afrique. J'ai dit, mais comment... Est-ce qu'elle dort bien quand même? Est-ce qu'elle a un confort médical? Et puis, où est-ce qu'elle est? Finalement, je suis allé chez eux et j'ai vu qu'elle dormait par terre. C'est-à-dire qu'elle avait les os qui transperçaient presque sa peau et elle était à même le sol. J'ai payé un matelas. Quelques chrétiens ont dit, ça ne sera rien, elle va mourir dans 2-3 jours. 2-3 jours. 2-3 jours. Ça vaut la peine de payer un matelas à Jésus, même pour 2-3 jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai offert un matelas. Et elle n'est même pas morte 2-3 jours après, elle est morte le lendemain. Elle a au moins passé une nuit sur un matelas, sans avoir les os qui cognaient par terre. Vous voulez faire quelque chose pour Jésus? Eh bien, vous avez l'embarras du choix, mes frères et sœurs. L'embarras du choix dans ce monde de souffrance, dans ce monde de confusion. Mais de grâce, unissons nos efforts pour être plus efficaces. Ne nous dispersons pas. J'ai emmené des blancs, c'est 30 blancs sur 70, dans ce village de 100 personnes. J'ai emmené des blancs là-bas. Ben, il n'y a qu'une femme, c'est Nelly, qui a eu l'idée de dire, bon ben, on va aider, c'est faisable. Elle le fait toujours. Non seulement elle le fait, en envoyant des dons régulièrement, mais elle parle à des tas de personnes qui envoient, que je ne connais même pas, qui continuent à envoyer des dons, et c'est comme ça qu'on peut faire de l'humanitaire. Sur tout ce que j'ai emmené, c'est la seule qui est pratique. Les autres, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des associations, eux, pour faire eux. C'est mignon. C'est bien, c'est déjà mieux que rien, mais ben, je trouve que ce n'est pas intelligent, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas gentil. C'est pas normal. C'est un peu crétin, je trouve. Pardonne-moi, Seigneur, mais moi, je n'oserais jamais faire une chose comme ça. Supposons que l'abbé Pierre m'invite à aller dans les rues avec lui pour voir comment ça se passe. Puis je dis, ah ouais, c'est génial, ben je vais créer un truc, plutôt que de l'aider lui, qui a déjà commencé depuis longtemps. Vous comprenez la chose? C'est même pas gentil, ça serait même pas gentil pour l'abbé Pierre. Ben voilà, La plupart ont fait ça. C'est intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, il existe des tas de petites associations qui végètent plutôt que d'unir nos efforts et de faire quelque chose. Non. Voilà. Bon. Que Dieu leur pardonne, que Dieu les bénisse. C'est bien, voilà, ils font comme ils veulent. Moi, je trouve que ça serait bien qu'on fasse comme Dieu veut. C'est-à-dire d'être unis. C'est ça que Dieu veut, c'est qu'on soit unis pour quelque chose d'efficace. Le plus efficace possible, du moins. Amen. Alors, nous avons tous des talents, mettons-les au service de Dieu. Vous qui nous entendez sur Internet, n'hésitez pas non plus. Que Dieu vous garde, que Dieu vous donne l'intelligence, et puis que nous ne soyons pas trouvés les mains dans les poches ou les mains levées. Alléluia! Jésus, il aime bien ça aussi, mais vous ne savez pas trop. Ça fait déjà 2000 ans qu'il entend. Alléluia! Sur ton trône élevé. Oui, mais il le sait qu'il est sur son trône élevé. Oui, voilà. Notre Dieu, Seigneur, Seigneur. Pourquoi dites-vous Seigneur alors que vous ne faites pas ce que je vous dis? Alléluia! Seigneur Jésus, je te prie. Comme ça, un petit peu marre, j'ai l'impression. Précisément, un peu plus d'action. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense comme ça. Peut-être que je suis charnel, hein? Marqué, j'ai toujours été taxé de charnel. Je dois être charnel, pas assez spirituel. Eh bien, je vais continuer de charnel comme ça jusqu'au bout, parce que je crois que c'est ça que Jésus attend. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Seigneur de bénir ces choses que j'ai dites. Que chacun y voit, non pas de l'amertume, parce que ça pourrait passer pour un peu de l'amertume, mais que chacun y voit le souci de faire le mieux possible ton œuvre, mon Dieu. Veuille bénir les cœurs et les rassurer par ton esprit, afin que chacun puisse dire, oui, moi je veux faire aussi. Quelque chose pour Jésus, c'est-à-dire quelque chose pour les autres. Faire quelque chose de pratique. Merci, mon Dieu. Amen, amen. Vous savez, ce papa, le lendemain, quand j'étais prendre des nouvelles de la fille, j'ai vu, il y avait plein de monde. J'ai dit, oula. Ben, il est venu vers moi et puis il m'a dit, elle est morte cette nuit. Juste ce matin, au début du lever du jour. Mais il m'a reçu, mais... comme si j'avais fait quelque chose de... Mais je crois que tu étais là, Philippe. Tu n'étais pas là. Je ne me rappelle plus le nom de cette ville. Il faut que je demande à Nicolas. Les gens... Vous voyez, il a pas dit « Ouais, vous avez prié, et puis il n'y a pas eu de miracle. » Non, il n'a pas dit ça. Il a trouvé extraordinaire. J'ai dépensé 80 balles pour un matelas. Ce n'était même pas 80 balles. Je crois que c'était 40 balles. Enfin, c'est... Vous voyez, on peut faire tellement... Il y avait aussi une pauvre vieille, il y a des histoires comme ça, j'en ai plein. Une pauvre vieille, on venait faire des réunions fantastiques là-bas dans une église. Et puis, il y a un monsieur qui m'a emmené voir sa mère. Alors, j'étais voir sa mère. C'était dans une case, elle aussi, elle n'avait pas de matelas, donc on a payé un matelas. Alors, elle avait un bandage autour de la tête. C'était jaune et rouge, noir, c'est ça. Puis, elle l'a soulevé un peu, puis il y avait un trou là-dedans. Puis, ça puait, c'est une horreur, c'est un cancer. Elle était en état de décomposition, c'est affreux. Toute maigre, mais toute souriante avec ses pauvres trois dents qui se couraient après là-dedans. Quelle horreur. Et puis ensuite, je dis, mais les soigner? Oh ben non. Je dis, mais pourquoi? Oh ben vous savez, on n'a pas les moyens. Et puis c'est comme ça, Dieu le veut, c'est Dieu le veut, il ne faut pas s'inquiéter. Je dis, ah bon. Je dis, bon, nous, on rentre ce soir à Ouagadougou, on va la prendre avec nous si vous permettez, et puis je vais l'emmener chez le docteur Issa. Donc on a fait ça, ils étaient tout contents, on l'a emmené chez le docteur Issa. Il a gardé 2 jours et puis on est allé voir. Puis il nous a dit, vous savez, cette dame, elle est en phase finale, c'est un cancer qu'elle a. Donc je l'ai mis dans un confort de médicaments, elle ne souffre plus. Je dis, bon, mais c'est bien, déjà ça. Donc elle ne souffrait plus. Et puis il a dit, moi, je ne peux pas la garder dans l'hôpital, ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, j'en sais rien. Il faudrait la ramener dans son village, mais avec les médicaments, puis je vais vous expliquer comment il faut vous en servir. Je dis, bon ben d'accord. Mais moi, je ne pouvais pas y aller parce que je devais partir faire une autre mission à l'autre bout, je crois, à Fada. J'ai demandé à des chrétiens de l'emmener. Résultat, aucun n'a voulu l'emmener parce qu'elle puait. Aucun. On a dû la mettre dans un bus du monde. Du monde. Ce n'est pas le premier qui a accepté, parce que vraiment, elle puait. Hein. On a dû faire 2-3 compagnies de bus pour finalement trouver un qui accepte de la prendre. Voilà. Juste pour vous donner une petite idée. Puis des histoires comme ça. Vous voulez que je vous en raconte? On peut passer 2-3 heures. C'est horrible. Horrible. Voilà. Alors voilà, mes frères et sœurs, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. En ce moment-là, des fois, quand je me couche, mais elle doit être morte, cette pauvre vieille. Quand je me couche, je pense à elle, des fois. On était avec Nicolas, toujours Nicolas. C'était dans le village de la prophétesse Dorcas. Elle nous avait emmené dans son village, c'est très joli. Puis là, pendant la guerre, il y avait un blanc qui avait, je crois, d'après ce que j'ai compris, il avait des, comment on appelle ça? Il avait quitté l'armée, enfin, comment on appelle ça? Déserté. Et puis il se cachait dans le village, il avait fait des tunnels, il avait creusé des trous, puis il se cachait dans les trous, puis il suffisait de mettre une planche par-dessus avec une table, puis on pensait que voilà, il n'y avait rien. Il se cachait là-dedans. Puis le temps a passé, il est mort. Puis maintenant, c'est devenu un lieu touristique. Tous les Blancs leur montrent le trou. Et puis, je dis, ah, ben c'est bien, mais pourquoi il y a un matelas là-dedans? Il n'y a pas un matelas quand même. Ah, ben c'est notre maman, la met là le soir. Ah bon, dans le trou? Ben oui. Ben on la trimballe là-dedans. Et puis le matin, on la sort quand même. Ah, oui, on ne la laisse pas dans le trou toute la journée. Non, on la sort. Si je peux la voir, mais bien sûr. Donc on est monté sur un toit. Alors c'était une poutre sur le qui montait de par terre jusqu'en haut, avec, vous savez, ils avaient encastré des bouts de bois, ils avaient vissé ou cloué des bouts de bois, c'est une espèce d'échelle. Déjà, moi, je n'aime pas une échelle normale, j'ai du vertige, mais là-dessus, enfin, bon, je suis monté quand même. Je ne sais pas comment ils faisaient pour monter cette grand-mère, je ne veux même pas y penser. Et puis, il l'a posé sur le toit en plein soleil, pas même un petit truc de paille pour avoir de l'ombre, non, en plein soleil là-dedans. Et puis, vers midi, il lui portait, pas tous les jours, mais parce que des fois c'était à midi, puis des fois c'était le soir, une petite calebasse avec du riz dedans. Et puis personne n'allait la voir, et personne. Toute la journée, là, en plein soleil. Puis le soir, ben, il la redescendait dans son trou. Et puis le lendemain, il la remontait en haut, puis le soir, il la redescendait. Des fois, quand je suis dans mon lit, et puis je suis là, et puis je dis, mon Dieu, et ben, je pense que vieille, voilà, ils ont descendu sur son trou. Elle est déjà un peu moins chaud. Quelle horreur, mais quelle horreur, mais quelle horreur. Et ça, c'est un cas donc, du milieu des milliers de personnes qui vivent des horreurs comme ça. Alors Nicolas me dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? On est habitué. Oui, oui, bon, d'accord. Mais nous, on peut pas rester froid là devant. On est obligé de faire quelque chose. Alors c'est vrai qu'on est principalement appelé à prêcher l'Évangile. Mais quand on va prêcher l'Évangile, puis qu'on voit des choses comme ça, on ne peut pas faire autrement que de mettre la main dans le portefeuille, puis il suffit d'acheter un petit truc pour qu'elle soit à l'ombre, il suffit de, je ne sais pas, peu de choses, pour qu'il y ait un peu de confort, pour qu'il y ait un peu de... Voilà, ben vous allez me dire, oui, mais il y en a tellement, ça ne sert à rien. Bon, ben ça ne sert à rien, ben allez crever dans vos matelas de riches, et puis foutez-moi la paix, mais surtout, venez plus me voir, s'il vous plaît, si vous avez un cœur comme ça. C'est peut-être méchant ce que je dis là, mais c'est tellement horrible ce qui se passe là-bas qu'on ne peut pas être doucereux avec des gens qui disent oh, « de toute façon, il y a tellement à faire qu'on ne peut pas tout faire. » C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire, mais au moins, ce qu'on peut faire, faisons-le. Amen. Alors faisons-le, que Dieu nous bénisse. Là, je vais bientôt repartir. Eh bien, on va continuer, on va faire ça jusqu'au bout, et puis on verra bien à la fin comment le Seigneur s'il nous dira de ce qu'on a fait. Amen. Allez, je me tais maintenant, sinon je peux vous parler toute la journée. Les musiciens, venez, que Dieu vous bénisse. Amen.